Père, nous te remercions pour ta parole ce soir encore. Merci pour les cœurs de chaque frère et sœur ici. Et Père, je crois que tu vas parler. Tu vas encourager. Tu vas nous aider à changer nos mentalités. Parce que nous avons tous besoin que nos mentalités encore changent, Seigneur. Parce que nous voulons nous comporter comme toi, tu te comportes. Nous voulons comprendre, Seigneur, cet épanouissement extraordinaire que tu as pour nous. Nous voulons comprendre comment ton royaume peut avoir une influence extraordinaire. Puisque nous te connaissons, Seigneur. Et nous ne pouvons pas connaître quelqu'un de plus grand que toi. Parce que Seigneur, tu es le plus grand. Et Seigneur, entre toi et le deuxième, il y a un immense fossé
infranchissable.
Parce que tu es hors classe, tu es Dieu. Tu es infini, tu es extraordinaire. C'est pourquoi nous sommes heureux de te connaître, Seigneur. Et nous voulons être influencés par toi. Davantage jour après jour. Afin, Seigneur, que nous puissions transpirer qui tu es. Dans le nom précieux de Jésus. Amen.
Amen.
Seigneur a tellement de bonnes choses pour nous, frères et sœurs. Et vraiment, je vous exhorte à construire constamment votre vie sur la parole. Et de découvrir que Dieu veut vraiment vous amener dans des hauteurs extraordinaires. Ne perdez pas votre temps dans des futilités, c'est-à-dire dans des choses qui ne servent à rien, mais construisez-vous, construisez son royaume. Passionnez-vous pour lui. Plus vous serez passionné pour Dieu, plus Dieu pourra vous utiliser dans le domaine où Dieu vous a donné des dons. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Et à ce moment-là, nous pouvons nous épanouir, travailler notre caractère, être transformé et réussir ce que Dieu a pour nous, c'est-à-dire notre destinée. Je vous rappelle que nous étudions ce qu'on appelle la prospérité. Mais là encore, c'est vraiment ce que la Bible nous dit avec le regard de Dieu. Parce que souvent, à chaque fois qu'on parle de prospérité, les gens pensent uniquement finance. Et c'est vrai que c'est une partie de la prospérité. Et même si on va se concentrer sur la prospérité financière, je veux absolument vous inculquer les mentalités. Si vous permettront de ne pas passer à côté des choses, c'est-à-dire de ne pas vous concentrer sur l'objectif, c'est-à-dire la finalité qui peut être l'argent, qui peut être le bonheur ou la réussite. Ça doit être les conséquences de ce que vous êtes. Ça ne doit pas faire l'objet de votre recherche. Vous
ne
devez pas rechercher l'argent, vous ne devez pas rechercher le succès. Sinon, vous allez vous planter. Vous devez rechercher quelque chose de beaucoup plus précieux. La sagesse et l'intelligence qui viennent d'en haut. Et le reste, ça sera une conséquence. Une conséquence. Si de l'intérieur vous êtes transformé, l'extérieur, ça sera une conséquence. Jean 3, Jean 2 nous disait, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et nous avons vu que prospérer, en fait, ça veut dire littéralement dans le grec faire un bon voyage. Passer dans cette vie en faisant un excellent voyage. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est important de comprendre que Dieu veut que
on puisse faire un excellent voyage dans cette vie.
Urumva dukwiye kumenya ngo Imana iragomba yuko tugira urugendo rwiza muri buno buzima.
Et l'important c'est pas de regarder là où tu parles, la façon dont tu parles, l'important c'est de voir vers quoi tu veux arriver.
Kandi gihambaye se kumenya ngo mvuye ngaha canke ndiko ngenda guki gihamba no kumenya ndiko nshika he ndiko njahe.
Donc c'est clair que dans notre vie spirituelle, Dieu nous appelle à l'épanouissement à tous égards. Et s'il y a des domaines où on n'est pas épanoui, ça veut dire que nous ne pratiquons pas ou que nous n'avons pas pratiqué dans certaines décisions la parole de Dieu. Il y a parfois des décisions qu'on prend qui sont excellentes parce qu'elles sont bibliques.
Et puis parfois
on souffre un peu par rapport à différentes difficultés, des défis qu'on a.
Mais
à force de marcher dans la foi et la persévérance, on voit vraiment Dieu agir et on s'épanouit dans ce domaine-là. Malheureusement, il y a des décisions parfois qui sont importantes dans notre vie et que nous prenons et qui sont contraires à la parole de Dieu. Et ce genre d'erreur, on met longtemps à s'en remettre. Et souvent, ça nous empêche de nous épanouir. Parce que des fois, on a pris des décisions qui ont impliqué que, on a pris des directions. On va vers des directions après
les décisions.
Et certaines, on ne peut même pas faire marche arrière. Et parfois ça nous est difficile parce qu'on en subit des conséquences pendant des années. Rappelez-vous que nous avons vu que Dieu est notre propriétaire, nous lui appartenons. Et nous sommes les gestionnaires. La façon dont tu vas gérer ta vie, ça t'appartient à
100%.
C'est là où tu vas pouvoir la gérer selon Dieu ou pas selon Dieu, ou une partie selon Dieu et une partie selon toi-même. Mais Dieu va te demander des comptes. C'est pourquoi nous devons faire attention à ce que nous faisons. Parce que Dieu nous donne de gérer notre vie. Nous lui appartenons. Et nous avons vu qu'il y a plein de paraboles dans la Bible où le propriétaire, un jour, rappelle le gestionnaire et lui dit: rends-moi des comptes. Et donc nous avons remarqué qu'il faut que nous fassions attention à la façon dont nous allons gérer les choses. Alors nous avons commencé à voir à propos de la prospérité financière. Là, on s'est dirigé un peu vers la prospérité financière. Et on a vu que l'argent souvent a une mauvaise connotation au niveau des chrétiens. Parce que beaucoup de gens n'ont pas compris qu'on a une relation avec l'argent. Et on a vu bien des chrétiens qui, quand ils n'étaient pas riches ou pauvres ou quoi que ce soit, ils étaient souvent à l'église, ils paraissaient les super spirituels.
Et
puis le jour où ils ont commencé à avoir un bon poste, où ils ont commencé à se débrouiller dans la vie financière, bon nombre de gens, pour eux, Dieu est devenu un vieux souvenir. Et c'est dommage. Parce que Dieu, au contraire, nous appelle. C'est pour ça qu'il faut qu'on travaille à l'intérieur de nous. Afin que quoi qu'il se passe d'excellent dans notre vie, ce soit ni plus ni moins quelque chose qu'on peut complètement contenir et donner la gloire totalement à Dieu. Ça ne devienne jamais une malédiction. On pourrait par exemple parler du mariage.
Il
y a des gens, parfois, ils sont célibataires.
Et tant qu'ils
sont célibataires, ils prient. Et puis un jour, ils rencontrent la personne pour laquelle ils avaient prié. Et d'un seul coup, leur vie spirituelle commence à dégringoler complètement. Comment est-ce qu'un exaucement de prière peut te refroidir spirituellement? Ça, c'est la question que tu dois te poser. Parce que si tu pries pour quelque chose et que tu l'obtiens, comment est-ce que ça peut être une occasion de chute pour toi? Ça veut dire que tu n'as pas travaillé dans ton caractère.
Au
contraire, ça devrait être une étape qui te permet d'aller plus haut quand tu es exaucé. Si
ce
n'est pas le cas, ça veut dire que tu as un gros problème de caractère. Et tu ne pourras jamais t'épanouir. Plus tu vois Dieu t'exaucer, plus tu devrais t'attacher à lui. Malheureusement, on a vu plein de gens. Vous voyez, c'est le fait de rechercher les choses. D'essayer d'avoir l'objectif désiré. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est très mauvais. C'est pour ça, Jésus nous dit, chercher le royaume, premièrement, le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Qu'est-ce que Jésus voulait dire au travers de cela? Acquérir toute la mentalité du royaume. Et le produit dérivé, ce sera tout le reste. Vous serez pourvu dans une puissante relation avec moi. Vous aurez des rendez-vous divins avec les gens. Vous serez prospère financièrement. Vous serez en bonne santé. Si l'ennemi vient vous attaquer, il partira vite. Vous vous épanouirez parce que vous serez pleinement dans ma volonté. Mais cherchez premièrement quoi? Les choses, les exaucements, les femmes, les maris, les enfants, les réponses à mon problème.
L'argent.
Vous voyez, ça, c'est vraiment essayer d'utiliser Dieu. N'essaye pas d'utiliser Dieu pour obtenir ce que tu veux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que des gens, des fois, quand ils sont exaucés, des fois, ils sont exaucés. Après, ils sont rétrogrades. Alors comment? Tu vas me dire, mais comment? Dieu peut nous donner quelque chose alors qu'il sait à l'avance qu'on va être rétrograde. Dieu nous aime, si tu as la foi, tu reçois. Si tu lui demandes avec foi, Dieu a promis de nous le donner. Maintenant, ce que tu vas faire avec ta bénédiction, c'est ta responsabilité de gestionnaire. Donc, fais toujours attention à cela. Mettez toujours vos antennes spirituelles ouvertes de ce côté-là. Est-ce que quand tu obtiens quelque chose de Dieu, c'est une occasion de refroidissement pour toi? Au contraire, une occasion de consécration supplémentaire. Ça, c'est une question que tu dois te poser dans ta vie. Et si pour toi, c'est une occasion de te consacrer davantage à lui,
ben,
ça va être super parce que tu vas pouvoir vraiment avancer avec Dieu. Donc, nous avons vu que cette relation avec l'argent, il faut être très prudent. Parce que si notre bénédiction n'est pas à la mesure du travail en nous, c'est-à-dire de notre caractère, ça peut être un instrument de chute pour nous, ça peut être un instrument d'orgueil, de rétrogradage, avec tout ce qu'on veut. Donc nous devons vraiment travailler en nous-mêmes en premier lieu. Alors la dernière fois, nous avions commencé à voir quelque chose qui est important. Parce que on a vu dans la Bible, dans 2 Corinthiens 10, on va relire ça vite fait, à propos des mentalités. Paul dira, verset 4, 2 Corinthiens 10, 4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses, Et Paul explique ce que c'est que les forteresses. Nous renversons les raisonnements. C'est ça, les forteresses. C'est pas les esprits méchants sur les villes ou les pays ou quoi que ce soit, comme certains ont voulu le dire. On ne parle pas d'esprits méchants ici. Et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, nous amenons toute quoi, toute pensée captive à l'obéissance de Christ.
Ku murongo wa kane ngo kuko ibigwanishwa by'intambara yacu atari ibyo mu buryo bw'umubiri ariko imbere y'Imana bifise ubushobozi bwo gushingura karimbi dushingura impari n'igishizwe hejuru cyose cyashiriwe kugwanya ukumenya Imana dufata mpiri byiyumvirwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo.
Alors nous avons commencé à voir une chose importante.
Ah, ariko twatangwe kurabaga ihambaye.
On a fait tomber un mythe qui est très fort chez les chrétiens.
Ariki ntuciki numenga ni gitito abakristo bakunze kwizera.
C'est que Jésus était pauvre.
Kwama bavuga yuko ngo Yesu yari umukene.
Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent là tout le temps.
Araba Kristo bakivyumvira gushika uyu munsi.
Et quand on leur dit qu'ils peuvent s'épanouir financièrement, qu'ils peuvent prospérer financièrement.
Hama wababwira ubutumwa yuko ashobora gutera imbere mu butunzi bwiwe.
Le premier bouclier qu'ils sortent, ils disent non mais Jésus était pauvre donc on doit marcher comme Jésus.
Ikintu cyambere kicyakiza muri bacavuga ngo Yesu ubwiwe yari umukene ngo kuko ije notunga.
Alors on a commencé à faire un petit tour dans les écritures.
Et on s'est
aperçu que d'abord la naissance de Jésus a été entourée de
richesses.
On a vu que les rois sont venus
apporter
des richesses devant le Seigneur. Et on a vu que c'était une provision, pourquoi ? Parce que après, les premiers-nés étaient menacés par le roi
Hérode.
Et Marie et Joseph ont dû partir avec Jésus pour se réfugier en Égypte parce qu'ils ont été prévenus divinement que le roi Hérode allait tuer les premiers-nés, les enfants, les mâles. Donc ils ont bien vécu quelque chose, ils étaient réfugiés en Égypte pendant des années. Et ils ont vécu quelque chose et ils ont certainement, évidemment, vécu de ces torts que Jésus a reçus ce jour-là. Ensuite, nous avons remarqué plusieurs choses à propos du ministère de Jésus. On a vu que Jésus, pendant 3 ans et demi, avait un ministère itinérant. Avec 12 personnes qui mangeaient bien. Et on
ne
voit pas Jésus dormir à la belle étoile. On
ne
voit pas Jésus manquer de quoi que ce soit ou ses disciples dire qu'ils ont fait un jeûne forcé, comme certains chrétiens qui font des jeûnes forcés parce qu'ils n'ont rien à acheter à manger. Jésus n'a jamais fait un jeûne forcé parce qu'il n'avait pas, il n'avait pas d'argent, ou que ses disciples ont fait un jeûne forcé parce que Jésus n'avait pas de quoi payer à manger pour ses disciples. Nulle part on voit ça dans l'écriture. Par contre on voit que Jésus était soutenu par des femmes riches dont, qui avaient bénéficié de son ministère. On a vu aussi dans Jean chapitre 13 où les disciples sont ensemble avec le Seigneur. Et nous savons que Jésus avait un trésorier. Un Gehazi.
Umuntu ameze nka Gehazi wa Elia, wa Elisa.
Un voleur.
Ariko yiba kandi.
Et en fait, Jésus avait Judas juste à côté de lui.
Yesu rero iruhande yiwe hari umugabo yitwa Yuda.
Il a trempé le morceau, nous l'avons vu dans le plat.
Mwibuke ya ntore ya ntore yakoza muri hahande hamagaca muhereza mwe basangira.
Et après nous savons que les disciples ont déduit que Jésus disait à Judas d'aller acheter quelque chose pour la fête ou de donner aux pauvres.
Mwibuke ko Yesu yamubwiye ati Yuda ivyo ukora bikore vuba na vuba. Abigishwa bacha bibaza ngo amubwiye ngo genda uhereze ikintu abakene cyangwa utegure ibintu byo munsi mukuru.
Donc nous savons que dans la bourse du ministère de Jésus, il y avait des sous.
Tuzira ngo mubigega vya Yesu hari y'amafaranga.
Et en fait, les pauvres ne donnent pas aux pauvres régulièrement. Nous avons remarqué tout cela, donc on a vu que Jésus était loin d'être pauvre. Rien que par exemple, un jour, ils étaient près d'une ville et il y avait quelque chose à payer, il y avait un impôt à payer. Et Jésus est le propriétaire de la terre. Mais il a dit à Pierre, on ne va pas les scandaliser, on va quand même payer cette histoire-là. Il a dit à Pierre, allez, va, pêche un poisson et dans le premier poisson, tu verras, il y aura de quoi payer l'entrée. On ne voit pas Jésus souffrir d'une pauvreté quelle qu'elle soit. Par contre, la Bible va nous dire dans 2 Corinthiens chapitre 8, et je vous ai déjà montré ce verset, maintenant on va en parler. Et verset 9, et il y a beaucoup de chrétiens qui utilisent, et même de prédicateurs qui utilisent ce verset pour affirmer que Jésus était pauvre.
2 Corinthiens 8:9,
il est dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis.
Uyu murongo harabakunze kukoresha kutari ko reka tusome ngo kuko muzi ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo kuko naho yari umutunzi yahindutse umworo kubwanyu kugira ngo ubworo bwiwe bubatungishe.
Alors je vous ai fait remarquer une chose, c'est que souvent les chrétiens religieux lisent avec leurs lunettes de la religion ce verset.
Ikintu twabonye nuko hari igihe kenshi abakristo basoma bakoresheje novuga barabisha amaso y'idini uwo murongo.
Et alors ils disent, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus qui pour vous était s'est fait pauvre, pauvre matériellement, de riche qu'il était matériellement, afin que par sa pauvreté matérielle, vous soyez enrichi spirituellement. On voit, vous voyez, ça c'est les religieux qui lisent ça comme ça. Donc soit on lit ce verset avec tout spirituellement, pauvre spirituellement, riche spirituellement, etc. Ou soit on le lit complètement matériellement, on parle de pauvreté matérielle et de richesse matérielle. C'est soit l'un soit l'autre, parce que dans ce verset, on parle soit de matériel ou soit de choses spirituelles. Et quand on lit le contexte de 2 Corinthiens chapitre 8 et 9. En fait, on s'aperçoit qu'on parle d'argent. Si vous lisez chapitre 8 et chapitre 9, on parle d'argent, on parle de collecte pour les saints de Jérusalem. Et c'était pas de la collecte spirituelle, c'était de la collecte
matérielle.
Donc soyons clairs, ici on parle de choses matérielles uniquement. Et là, la Bible nous dit que Jésus s'est fait pauvre. Alors, c'est ce que je lis dans les Épîtres. Mais quand nous étudions Luc 6:20, nous l'avons étudié, Jésus dira, heureux vous les pauvres. Donc on a bien vu dans l'écriture, dans les évangiles, que d'abord Jésus n'a jamais souffert de pauvreté, bien au contraire. Son ministère était très largement pourvu. Ils avaient de l'argent pour acheter des vivres pour les fêtes. Ils avaient de l'argent pour dormir quelque part, pour se nourrir pendant 3 ans et demi, pour être itinérant. Alors, on voit clairement que Jésus lui-même se disait qu'il n'était pas pauvre, mais qu'il considérait les autres comme pauvres. Et c'est normal, parce que je ne peux pas comprendre comment le propriétaire de l'univers pourrait dire, vous savez, vous les hommes, je suis pauvre moi.
Kandi ntibinumvikana ingene waremye amajuru agacarema n'isi tubamwe ifadika yovuga ati murahiriwe mwebwe na jewe dukenye.
Et Jésus ne s'est jamais comporté comme quelqu'un qui vivait dans la défaite, dans la pauvreté, dans la maladie et qui reculait devant le diable. Parce que sinon, on n'aurait pas beaucoup de chance de suivre quelqu'un qui serait pauvre, qui serait vaincu spirituellement, etc., etc.
Kuko n'ukuri nta mahigwe twaba dufise dukurikiye umuntu yari umukene yaragowe mu buryo bw'impuhemu n'uburyo bw'umubiri mu buryo bwose atakigenda twari kuba tugomba.
Jésus est notre modèle.
Ariko Yesu ni icitegererezo cyacu.
Alors, y a-t-il une contradiction?
Noneho bahariho rero
entre le fait que Jésus dit clairement heureux vous les pauvres, donc il se met pas dans le sac des pauvres.
Begaho bahari gihushane cyaha Yesu avuga ati murahiriwe mwebwe abakene ntishiremwo.
Et 2 Corinthiens 8 que nous avons lu où Paul nous dit que Jésus s'est fait pauvre.
Naha abikorinto ba kabiri gice cy'umunani Yesu avuga ati ngo Yesu aho Paul avuga ngo Yesu yigize umukene.
Y a-t-il contradiction?
Begaho bahari gihushane
mwebwe. Est-ce qu'on est en train de parler de la même chose?
Change bavuga bimwe.
On voit bien Jésus dans les évangiles qui ne souffre pas de pauvreté, qui n'est pas pauvre loin de là. Et là, dans ce verset, Paul nous dit clairement, il s'est fait pauvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Lisons quelques passages de la parole de Dieu qui vont nous introduire un sujet qui est très important. On va par exemple lire 2 Corinthiens 5:21. Et puis on va commencer à se poser des questions. Après nous lirons Galates 3:13. Et on va commencer à voir ce que le verset de 2 Corinthiens chapitre 8 nous disait. La Bible va nous dire dans 2 Corinthiens 5:21, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour que afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Regardons Galates 3:13 maintenant. La Bible va nous dire quelque chose de très très important qui concerne une doctrine qui est fondamentale de la croix qui s'appelle notre identification avec Christ. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « maudit et soit quiconque est pendu au bois », afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit.
Christ kugira ngo kuko ngo handitswe ngo azoba avumwe umuntu wese amanitswe ku giti kugira ngo umugisha w'Aburahamu ushike ku banyamahanga n'ibindi n'ibindi.
La Bible va nous parler que Jésus a été fait malédiction.
Abiri tubwira ngo Yesu yagizwe ikivume.
Malédiction de la loi.
Ngo yahindutse umuvumo.
Malédiction de la loi.
Ngo yaducunguye umuvumo w'ibyagezwe.
Alors évidemment ça va nous ramener au peuple d'Israël.
Ibi rero twumvise ibyagezwe bica bidusubiza mu banyisraeli.
Comment en fait
ni gute
le peuple d'Israël avait une alliance avec Dieu?
Ni gute abanyisraeli bari bafite isezerano n'Imana?
Qui était la loi de Moïse?
Bari bafite ibyagezwe bya Mose?
Et comment il y avait une malédiction de la loi?
Hanyuma hagaca bico bita umuvumo w'ibyo
byagezwe. Parce que là la Bible va nous parler de malédiction de la loi.
Kuko ngaha biritubwira ngo umuvumo w'ibyagezwe twarawuca.
Et on va se poser la question comment Dieu voulait et voyait son peuple financièrement dans l'Ancien Testament.
Hama turibaza ikibazo ngo mbega Imana yabona gute abantu bayo cyangwa ihanga ryayo mu buryo bw'ubutunzi mu isezerano rya kera.
Puis on va se poser la question à propos de la maladie par exemple.
Turibaza nk'ikibazo kubijanye n'ingwara turaza kubiraha.
Puis on va se poser des questions par rapport à la relation qu'ils avaient avec Dieu. Et vous allez commencer à comprendre de quoi veut parler ce verset de 2 Corinthiens 8 que nous avons lu tout à l'heure quand il est dit que Jésus s'est fait pauvre.
Vous
savez, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas bien le sacrifice de Jésus.
Il y a beaucoup
de gens, bon, on leur prêche l'évangile, on leur dit voilà, Jésus est mort pour tes péchés. Repends-toi, tu es pécheur. Donne ta vie à Jésus. Et il va te sauver.
acagukiza.
Et ça c'est vrai, c'est le message fondamental du salut.
Uko nokuri niyo fatiro y'ubutumwa bwiza bw'agakiza.
Mais dans le sacrifice de Jésus,
ariko mu kwitanga kwa Yesu,
il n'y a pas seulement
ntiharimo gusa
le fait que Jésus soit mort pour nos péchés.
Yuko Yesu yapfuye kubw'ibyaha byacu.
Ça c'est ce qui te permet d'entrer dans le royaume de Dieu.
Ibyo nivyo bitutuma twinjira mu bwami bw'Imana.
Parce que le problème que l'homme avait avec Dieu, c'était son péché.
Kuko ingora n'umwana w'umuntu yari afitaniye n'Imana nuko yari umunyabyaha.
Mais il y a beaucoup plus que Jésus a accompli.
Ariko ibirenze ibyo hari ibindi birenze ibyo niko novuga.
Jésus a accompli dans son sacrifice beaucoup plus que simplement le pardon de nos péchés.
Yesu mukimazi ciwe yakoze ibirenze gusa guharira ibyaha.
C'est clair que le pardon de nos péchés, c'était la pierre fondatrice sans laquelle nous ne pouvions pas accéder au salut.
Uko biri nuko nukuri niho byubakiye guharirwa ibyaha niho hambere turonkera agakiza.
Mais Jésus a fait beaucoup plus que ça.
Ariko ugiye kubira aba Yesu yakoze ibirenze kuduharira ibyaha.
Dans Matthieu 27, Jésus va prononcer une parole.
Muri Matayo 27 hari ijambo Yesu yavuze.
Et une parole qui est souvent mal comprise parmi le peuple de Dieu.
Ijambo kenshi abantu b'Imana badakunze gutahura.
Et quand Jésus va être crucifié,
igihe Yesu yabambwa,
il va devenir malédiction.
Icyo gihe yacitse umuvumo.
Il va devenir malédiction, rappelez-vous ce qu'on a lu dans Galates 3, 13 et 14, pour que nous puissions hériter de la bénédiction. En fait, Jésus va devenir ce que nous étions pour que nous puissions devenir ce qu'il est. Donc, il va prendre toute notre malédiction.
Il va devenir
malédiction pour que nous puissions avoir un accès à un héritage
des
plus extraordinaires. Et je vais vous montrer ce qu'il y a comme volet dans votre héritage. Ce sont des choses qui vous appartiennent. À partir du moment où vous êtes en Christ.
Et
quand, à partir du moment où, je dirais, vous êtes né de nouveau, vous avez vraiment compris que Jésus a payé le prix pour vos péchés. Quand on dit à un chrétien, pourquoi t'es sauvé? Il va vous dire, parce que Jésus est mort pour mes péchés. Il a payé le prix pour que je puisse être sauvé. Et c'est une pure vérité. Mais avec cela, il y a d'autres vérités dans lesquelles nous devons entrer. Et ça, ça fait partie d'une des pierres fondations de notre prospérité, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Parce que sans connaissance, le peuple de Dieu périt. Pourquoi? Parce que quand tu ne connais pas bien la parole, tes façons de penser, c'est ce qui va diriger ta vie. Tu vas penser d'une certaine façon qui n'est pas en accord avec la parole. Parce que tu es ignorant. Donc, tu vas avoir des mentalités parce qu'elles sont ancrées en toi. Tu vas parler ces choses parce que tu vas les raisonner et tu vas agir sur ces choses et tu vas être dans une dimension à cause de la position que tu prends qui n'est pas bonne. Tu vas être dans une dimension inférieur. Tu vas avoir une vie inférieure à ce que le Seigneur a pour toi. Et c'est dommage. C'est ce qui fait que quand nous ne connaissons pas la parole, nous ne pouvons pas nous positionner là où il faut. Donc nous ne pouvons pas vivre la dimension que Dieu a pour nous. Donc on vit pour le Seigneur, oui.
Tu es
là, tu viens à l'église. Tu essaies d'être un bon chrétien, tu essaies de lire ta Bible, tu essaies de comprendre ce que tu peux comprendre, tu essaies de prier comme tu peux prier, tu écoutes quelqu'un prier, tu dis tiens, lui il prie bien, je vais prier comme lui, tu essaies de temps en temps de dire tiens, je vais prier comme ça, je vais essayer ceci, je vais essayer cela, et finalement tu ne vis pas dans le meilleur de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as un manque de connaissances. Avec un manque de connaissances, nous ne pouvons qu'on va vivre dans le meilleur de Dieu.
Kandi tutagira ubumenyi bukwiye byo tugorako mu byiza bya mbere.
La connaissance, nous verrons, de la parole ne fait pas tout dans notre vie, mais c'est un pilier important.
Ego nivyo ubumenyi bw'ijambo ry'Imana ntibutuma ubikwiza byose mugabo n'ikintu gihamba.
C'est quelque chose qui est fondamental dans notre vie, cette connaissance de la parole.
Churufatiro mu buzima bwacu no kumenya ijambo ry'Imana.
Parce que Jésus nous a dit que nous connaîtrons la vérité.
Kisovye ngo muzomenya ukuri.
Et que c'est la vérité qui va nous affranchir.
Amani mwakumenya kuzoba hakwidegenza.
La parole de Dieu, c'est la vérité.
Kandi ijambo ry'Imana turazi ko
ari ukuri. C'est elle qui nous montre
nijyo ritwereka
qui est Dieu.
Imana
c'est l'expression de Dieu.
Mbere niko Imana yivuga mu ijambo.
C'est pour ça d'ailleurs que dans la Bible, dans le grec, il y a un mot qui a été utilisé, c'est le mot logos.
Nacho gituma ijambo mu kigiriki bagita logos, ari ijambo
bakoresha yitwa logos. Parce que ça veut dire l'expression de quelqu'un.
Kuko logos bisobanura ngo n'ukuntu umuntu avuga canke yivuga.
Ce qu'il pense, ce qu'il veut.
Akavuga umuntu ibyo ashaka, ibyo
yiyumvira. Ce qu'il fait, ce qu'il fera, c'est tout ça l'expression, le logos.
Ibyo yakoze, ibyo akora, ibyo azokora, nuko bimeze niyo logos.
Et c'est pour ça que nous devons connaître cette parole.
Nicho gituma dukeneye kumenya iryo jambo.
Pour être affranchi de mentalité.
Kugira ngo tubohoke tuve mu byumviro.
Qui souvent nous empêche de vivre dans une de nous mettre d'abord en position. Par rapport à ce que Dieu veut, et donc de vivre les dimensions divines. Donc imaginez-vous, ça commence comme ça. Parce que dans ta pensée, tu es bloqué quelque part. Tu crois des choses qui sont fausses.
Tu
dis non, c'est comme ça, bah, Dieu, c'est ce que Dieu veut pour moi.
Tu
n'as pas consulté vraiment la parole.
Tu as
une mentalité tellement religieuse que quand tu lis la parole, c'est comme si tu étais aveuglé quelque part.
Et
ça t'empêche parce que tu parles des choses qui sont contraires à ce que Dieu veut.
Sans
forcément le vouloir. Vous savez, il y a de braves chrétiens gentils comme tout qui vivent dans 0,001% de ce que Dieu a pour eux.
Ugasanga ivyo byose urabibamwo atari uko wabigombye, ugasanga uri mu Kristo mwiza mugabo ukaba mu bintu bito.
Des gens qui sont gentils.
Kandi ugasanga uri umwana mwiza.
Comme on dit en français, qui ne te ferait pas de mal à une mouche.
Abantu babandi bavuga uti nta nakasazi n'ukuri yokomeretsa.
Mais qui vivent dans le 0,001% du meilleur de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas découvert ce que la parole de Dieu disait. Donc la parole, c'est ce qui va nous aider, c'est ce qui va nous affranchir. C'est un pilier fondamental. Et lorsque Jésus est mort à la croix, il va dire une parole. Il est dit au verset 46 de Matthieu 27, « Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Gonko kwisaha y'icenda ku murongo 43 Yesu asemera n'ijwi rirenga ati Eli, Eli, lama sabachthani, risobanuka ngo mana yanje niki kikumpebesheje.
Beaucoup de gens n'ont pas compris cette parole.
Abantu benshi iri jambo ntibaritahuye.
Jésus était en train de crier de désespoir parce qu'il ne savait plus quoi faire. Il était cloué sur une croix, il ne pouvait plus bouger.
Non, ce
n'est pas ça qui s'est passé là. À ce moment même, Jésus est devenu ce qu'on appelle notre substitut. Il a pris notre place. À ce moment même, Galates 3:13 est devenu une réalité. Il est devenu malédiction. Ça veut pas dire qu'il a été maudit. Non, ça n'a rien à voir. Il est devenu. Il y a eu ce qu'on appelle un transfert. Lui qui était sans péché. Lui que la mort ne pouvait pas toucher. Parce que la mort a un pouvoir s'il y a du péché. Lui qui a vécu une vie parfaite, donc le péché ne pouvait pas le toucher. Il n'y a pas touché au péché. Donc la mort ne pouvait pas le toucher. Quand il est mort sur cette croix, il est devenu notre substitut. Ça veut dire que toute la malédiction, conséquence de la chute d'Adam et
Ève,
du péché d'Adam et Ève, de la séparation donc entre le Créateur et la créature, Jésus était en train de nous en racheter. Et il est devenu malédiction. Il nous a racheté de la malédiction de la loi. Et regardez un peu ce que Dieu avait prévu pour les Israélites.
Puisqu'on
parle de loi. Dans Deutéronome
28,
la Bible nous parle des bénédictions et des malédictions de la loi. Et là, on voit comment Dieu voulait son peuple. Mais j'aimerais qu'on fasse d'abord un petit tour. On va regarder Deutéronome 28, mais regardons Deutéronome 8. C'est un passage qui est très intéressant. Et après, on va arriver à Deutéronome 28. Donc, Deutéronome 8, et après, on va arriver à Deutéronome
28.
Ces deux passages vont nous montrer un certain nombre de choses à propos de la vision de Dieu pour son peuple. Vous savez, Dieu a une vision pour nous. Des projets pour nous. Et Dieu n'a jamais d'abord des petits projets. Et il n'a jamais des projets pour nous faire du mal. Il a toujours des projets d'excellence. Mais il sait aussi que l'homme ne peut pas entrer dans ses projets d'excellence s'il n'est pas formé. Et particulièrement dans son caractère. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous compreniez. Dieu n'a jamais des projets de malheur pour nous. Il a toujours des projets de bonheur. Dieu n'a jamais des petits projets pour nous. Donc ne prie jamais, Seigneur, je veux que tu me montres ta petite volonté pour ma petite vie.
Non,
pense grand, crois grand, parce que tu as un Dieu qui est infini. Là, c'est encore un problème de forteresse. La religion nous a toujours dépeint comme un Dieu méchant qui voulait écraser l'homme jusqu'au bout.
Et faire
de grandes choses pour la religion, ça a été toujours synonyme d'orgueil.
C'est pour ça que
la religion lie les hommes. Les empêche de s'épanouir. Nous avons été libérés en Christ. Mais ta mentalité doit être complètement transformée. Là-dedans, il y a des forteresses qui frappent. Mais qui t'empêchent finalement de laisser Dieu agir pleinement dans ta vie. Pour que tu réalises le meilleur de ce qu'il apporte. Ce que je vous explique ici, ce sont des principes de vie spirituelle. Qui demandent du temps à être mis en application parce que le monde s'oppose à 100% à cette connaissance divine. Le monde te tirera toujours vers le bas. Ou alors essaiera de faire de toi quelqu'un de grand pour que tu tombes. Pour que tout le monde t'admire parce que tout va revenir vers toi et tu ne donneras plus la gloire à Dieu. Regardez ce que la Bible nous dit dans Deutéronome 8. Vous observerez verset 1 pour les mettre en pratique tous les commandements que je vous donne aujourd'hui afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères.
Ibyagezwe byose mbagera ku murongo wa mbere uyu munsi muze muvyitondere mubishitse kugira ngo mubone kubaho mugwire kugira ngo mwinjire igihugu uhoraho yarahiye basogokuruza banyu kwazokibaha.
Donc ici on peut voir plusieurs choses.
Aha dushobora kubonamo ibintu bitandukanye.
D'abord, il y a une responsabilité de l'homme vis-à-vis de Dieu.
Ubwambere nuko umuntu wese arafise uruhara arafise icabazwa imbere y'Imana.
Rien ne se fera automatiquement. Et ne vous couvrez pas avec la prière seulement. Parce que beaucoup de chrétiens veulent bien prier, mais ne veulent pas obéir.
Kuko hari abakristo benshi bagomba gusenga mugabo batagomba kumvira.
Vous savez, les Israélites c'était des croyants.
Abanyisraeli nabo barizera.
Dans le désert, tous ceux qui sont morts dans le désert, ils croyaient bien en Dieu, oui ou non?
Bamwe bari mu bugaragwa ntimwibaza ko nabo bizera, bamwe bapfira mu bugaragwa nabo barizera Imana.
Ils priaient, oui ou pas?
Barasenga nabo nyene.
Oui, d'accord.
Ngira muravyemeza
nyene. Quelle a été leur fin?
None barangije gute.
Ils sont morts dans le désert.
Bapfire mu bugaragwa.
Ils ne sont pas entrés dans les promesses.
Ntibinjiye mu isezerano.
Parce qu'ils étaient rebelles.
Ils
ne voulaient pas obéir à Dieu. Donc ne vous couvrez pas avec la prière. Prière sans obéissance égale échec assuré.
Et
il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Ils veulent prier. Et quand il s'agit d'obéir à ce que Dieu leur demande, là, ils fuient. Oui, mais Seigneur, tu vois, oui, mais. Ça, c'est la première chose, que si on veut entrer en possession du pays, il y a une responsabilité de notre part. Alors, on va prendre possession du pays comme étant notre épanouissement en général, notre prospérité. Dieu leur avait dit, vous irez dans un pays où coule le lait et le miel. En fait, ça va être fantastique. Et ils parlent de ceux de, que vous multipliez. Une deuxième chose qu'on va remarquer, c'est que Dieu n'est pas dans le business de l'addition. Ni de la soustraction. Ni de la division. Dieu est dans le business de la multiplication. C'est un principe qu'on va reprendre d'ailleurs plusieurs fois. Mais dans ta vie, il faut que tu vois toujours Dieu qui est dans le business de la multiplication. Ça c'est Dieu. Il y a des gens qui ont vraiment une image de Dieu qui est fausse. Dieu a retranché ça dans ma vie. Dieu a divisé ça dans ma vie. C'est pas Dieu ça. Et puis certains, c'est Dieu a ajouté ça.
Et
alors quand on leur demande c'est quoi ça, j'ai un témoignage. Je supporte plus ça. Ça m'arrache les oreilles en ce moment.
Moi,
j'ai envie de voir de très grands témoignages. Parce que si nous avons un très grand Dieu, un Dieu infini, il doit se passer quelque chose de grand chez nous. Sinon, ça veut dire qu'on a un réservoir infini au-dessus de nous et qu'on a mis un tout petit tuyau microscopique et les gouttes ont du mal à passer.
Et
donc ça veut dire que nous avons un problème quelque part. Moi, j'ai envie vraiment de voir de grands témoins. On commence à en voir un peu plus. J'ai vraiment envie qu'on en voit des immenses. Des choses où on se dit, mais... Vous savez, vous êtes là, vous avez l'impression d'être dans un rêve.
Vous
voyez, par exemple, le bâtiment, c'est un rêve qui se réalise pour
nous.
Mais je me dis, c'est bien. Mais j'attends tellement plus du Seigneur. Quand je dis j'attends tellement plus du Seigneur, c'est que j'ai tellement envie de voir des choses, mais extrêmement, ultra extraordinaires. Merci pour l'interprétation fidèle. Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que d'aller raconter, j'ai un témoignage, j'ai pu avoir le bus, alors que je me suis rasé, je me suis un peu coupé, et j'ai quand même couru, et j'avais demandé au Seigneur de m'amener, de retarder le bus. Soyons clairs. Celui qui a créé le ciel et la terre, il n'est pas dans ton histoire de bus qui a été retardé.
nari muri utwo tuntu mwene n'utwo tuva ngo ngo bisi ngo yacerewe ngo igitangaza mbwa ngo ikirashika ngo igitangaza ngo kumva yera caravaye ngo acarampamagara.
Vous savez, des fois j'entends des trucs qui m'irritent.
Urumva hari gihe numva ibintu bibabaje no binjya.
Il y a des gens, même des fois des pasteurs, j'entends dire ça.
Hari gusanga ari abapastori babivuga.
Frère, le Seigneur est là même dans les moindres détails.
Gorega mwene data Guimana ngo irabonekera no muri tuya tuntu duto duto.
Alors ils vous racontent leurs petits trucs là qu'ils ont vécu où le Seigneur était dans le coup.
Agaca kubira rutuntu yabayemwo aha kubira ko Imana yarimwo.
Et depuis 5 ans qu'ils prêchent, ils ont eu 2 mouches, 3 rats et 2 souris qui ont été sauvés.
Ugasanga rero imyaka ingahe 5 amaze avuga ubutumwa asanga habaye.
C'est vrai. Dieu a fait le détail dans les mouches et les souris.
Ugasanga habaye ibintu nyene bito bimwe utobona mwe ikintu cy'igitangaza na kimwe.
Arrêtons ce genre de mentalité.
Reka duhagarike kubona ibintu mu byo mwe n'ubu.
Dieu a le meilleur.
Imana idufite ibyiza.
Et il voit grand pour chacun.
Kandi turabye itubonere.
Non pas pour nous-mêmes.
Itubona turi mu bikomeye.
C'est pour que sa gloire éclate.
Atari kubgacu.
Moi j'ai vraiment envie de voir la gloire de Dieu éclater.
Ariko kugira ngo ubwiza bw'Imana icyubahiro cy'Imana kigaragare. Kiboneke mu buryo butangaje.
Que ça marque l'histoire de cette nation.
Maze muri kahise kabuno Burundi bazobivuge.
Que ça marque l'histoire de cette nation. Un jour, Dieu m'a dit ça. Que dans les livres d'histoire du Burundi. Il y a longtemps, c'était en 93, j'étais à la poste, assis là, je méditais. Il n'y avait pas beaucoup de voitures à l'époque. Vous voyez, à l'époque, on voyait passer une voiture toutes les 10 minutes. Et c'est ce que le Seigneur m'a montré. Que le ministère marquera l'histoire de cette nation. Dans les livres d'histoire. Vous savez qu'en Angleterre, quand j'enseigne sur l'histoire de l'Église, en Angleterre, il est dit, il y a eu un homme qui s'appelle John Wesley. Au début du 19e siècle, alors les livres païens d'histoire disent la chose suivante. Il y a eu une sorte d'éveil religieux à cette époque-là. C'est l'expression qu'ils utilisent à peu près en général. Qui a évité à l'Angleterre d'avoir une guerre civile comme la Révolution française. Et en fait, cet homme, John Wesley, quand il a prêché l'évangile, il y a eu de tels réveils que ça a bouleversé complètement le paysage en Angleterre, spirituel d'Angleterre. Et c'est pour ça que les gens ne sont pas révoltés comme les Français et il n'y a pas eu de bain de sang comme en France en Angleterre à cette époque-là. C'est les livres d'histoire qui nous en parlent. Et moi j'ai vraiment envie qu'on vive des choses dans une autre dimension encore. C'est bien ce qu'on vit, mais c'est pas ça que j'attends personnellement. Je sais que Dieu a beaucoup plus pour nous. Dieu est vraiment dans le business de la multiplication. Moi, je veux voir une multiplication d'âmes sauvées. Ou je veux voir la guérison éclater et se multiplier par nous. Je veux voir une multiplication dans les finances. Je veux voir une multiplication de ministères. Je veux voir une multiplication de plein de choses. De business, de toutes sortes de choses. Parce que c'est ce que Dieu veut faire. Dieu est dans le business de la multiplication. Et là, on a l'impression de vivre l'addition. C'est bien, quand on additionne de plus gros chiffres, de plus en plus, c'est intéressant.
Mais
la multiplication, ça me parle d'accélération. Et pour les mathématiciens, il faudrait qu'on arrive à l'exponentiel. Pour que vous multipliez, que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Tu te souviendras, verset 2, tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur. Et si tu observerais les commandements, oui ou non. Il t'a humilié, t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne pour que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied ne s'est pas enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu t'éduque comme un homme éduque son fils. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays de cours d'eau, de sources, de nappes souterraines qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain sans avoir à te rationner, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes, duquel tu extrairas le bronze. Lorsque tu mangeras et tu te rassasiras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit Dieu leur dire en gros, voilà la dimension dans laquelle je vais vous faire entrer. Mais regardez le principe encore. C'est le principe d'éducation. C'est-à-dire que il devait entrer. Ça, c'était ce que Dieu voulait.
Ce n'est
pas ce qu'ils ont fait. Vous savez qu'ils ont échoué lamentablement. Mais ce que Dieu voulait, c'était les éduquer. Pour que ce pays dans lequel ils allaient entrer, qui était la dimension d'abondance à tous égards, ne soit pas une occasion de chute. Et Dieu voulait qu'ils apprennent une chose dans le désert. La dépendance d'avec lui. Et souvent, vous savez, quand on commence dans certains domaines de notre vie spirituelle, on
acquiert
de la connaissance de la parole, nous nous heurtons aux défis, aux circonstances, aux difficultés, à notre arrière-plan, à notre passé, à nos erreurs, à nos mauvaises décisions, etc. Et puis, d'un seul coup, on découvre la parole de Dieu. Et les choses ne vont pas se produire du jour au lendemain. Les effets de la parole ne se produiront pas du jour au lendemain. Ça va demander du temps d'éducation. Et le temps que tu vas passer à être éduqué par Dieu, ça peut être un temps assez court, ça peut être un temps à rallonge, ça peut être un temps qui ne sera jamais accompli où tu vas partir avant.
Et
ça va dépendre uniquement de toi. Ce temps où tu as des moments où tu vas souffrir par rapport à quelque chose, où tu vas avoir du mal par rapport à ça, c'est un temps d'école, un temps où tu apprends à dépendre de ton Seigneur. Et Dieu, voilà comment il les voyait. Il leur dit, verset 11, garde-toi, quand tu seras dans toutes ces bénédictions, quand tu seras dans la dimension dans laquelle je veux que tu sois, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances, ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et que tu te rassasiras, lorsque tu bâtiras et habiteras les maisons qui s'écroulent à la première pluie près de l'Antarangwa à Buyenzi. C'est ça que Dieu a dit ici? Non, il a dit, lorsque tu bâtiras et habiteras quoi? Oh, je vous entends pas là. Je vous ai pas encore entendu. De belles maisons.
Baravuga ngo muze mwirinde ku murongo wa 11 mwoye kwibagira Uhoraho Imana yanyu mukareka kwitondera ibyagezwe byiwe n'amateka yiwe ashinzwe n'amabwirizwa yiwe ibyo mbageze uyu munsi nimwamara kujya mugahimba mukubaka amazu meza mukayabamwo amasho yanyu n'imikuku n'ibindi bikaba nimwibagire mwirinde kwibagira Uhoraho.
Verset 13 dit, lorsque ton gros et ton menu bétail se multiplieront, que l'argent et l'or se multiplieront pour toi. Waouh, est-ce que Dieu est... Et que tout ce qui est à toi se multipliera. Est-ce que c'était pas Dieu qui leur disait que les choses matérielles allaient se multiplier?
Est-ce
que Dieu leur dit, ce n'est pas ma volonté que ces choses se multiplient, je vais les diviser entre tes mains?
Non.
Dieu leur dit, la dimension dans laquelle je veux que tu sois, c'est à partir du moment où tu touches quelque chose, ça se multiplie.
T'as
un chemin à faire d'éducation. Mais au bout d'un moment, tu vas arriver dans cette dimension-là. C'est ce que je veux pour toi. Dans tous les domaines, c'est ce que le Seigneur nous appelle.
À vivre.
Apporter plus de fruits. Jésus nous l'a clairement dit dans la parabole de la vigne, du cep et des sarments. Porter plus de fruits.
Des
fruits qui se multiplient. À ce moment-là, Dieu dit, une fois que tu es dans ces dimensions-là, prends garde de peur que ton cœur ne s'élève et que tu oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude et qui t'a fait marcher de ce grand et redoutable désert. Pays des serpents brûlants, des scorpions, de la soif où il n'y a pas d'eau. Il a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher, de granit. Il t'a fait manger dans le désert la manne que tes pères ne connaissaient pas, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. En fait, Dieu ici dit à son peuple, rappelle-toi par où tu es passé. Quand tu es dans les grandes dimensions de multiplication, rappelle-toi. Mon objectif, nous dit Dieu, c'est de vous amener dans des dimensions extraordinaires.
Et
quand tu entreras là, rappelle-toi d'où tu viens.
C'est
ce que tu dis. Garde-toi, verset 17, de dire en ton cœur, ma force et la vigueur de ma main m'ont acquis ces richesses. Tu te souviendras d'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force, la puissance, l'habilité pour acquérir ces richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée avec tes pères.
Kandi muze mwirinde mwoye kwiyumvira mu mitima yanyu mutu butore bwacu n'inkomezi zacu nibyo byaturonkesheje ubu butunzi ariko muze mwibuka uhoraho imana yanyu kuko ari we azobaha ubutore bwo kuronka ubutunzi.
Donc c'est clair que là Dieu dit dans sa parole,
il y a une question que Imane vuga mu ijambo ryayo,
qu'il donnait de l'habilité au peuple d'Israël,
yuko izoha ubumenyi n'ubushoboza abanyisraeli
pour créer des richesses,
kugira ngo bashobore kuronka ubutunzi.
Nous allons voir dans la prochaine séance comment Dieu, au travers de Christ, nous a racheté de la pauvreté.
Et
qu'il nous appelle à la prospérité. Nous allons découvrir ces principes. Mais d'abord, il faut que dans vos têtes, dans vos mentalités, vous compreniez
que
Dieu a le meilleur.
Et
que notre responsabilité, c'est de savoir dans quelle dimension nous voulons vivre. Dans le moins bon de Dieu, dans le 0,01%, dans le 1%, dans le 5%, dans le 10%, dans le 50%, dans le 80%, dans le
100%.
Ça, c'est notre responsabilité. Et ça va être d'abord de changer nos mentalités, de connaître la parole.
Ça va commencer
à nous permettre de comprendre là où Dieu nous veut. Parce que Dieu nous veut dans son meilleur. Et si nous ne sommes pas dans le meilleur de Dieu, ça veut dire que nous-mêmes, nous gérons mal notre vie. Ça veut dire que nous ne comprenons pas les mentalités dans lesquelles nous devrions vivre. Ça veut dire que nous n'avons pas la foi pour que ces choses-là avancent. Et ça, c'est super important de comprendre. On va voir comment Dieu voyait son peuple aussi dans Deutéronome 28, dans la bénédiction.
On
verra qu'une partie de cette bénédiction, c'est la bénédiction matérielle. On étudiera des hommes de Dieu qui ont été bénis par Dieu. Financièrement, et la bonne nouvelle, c'est que Hébreux 8, verset 6, nous dit que nous avons une meilleure alliance basée sur de meilleures promesses. Et quand vous interrogez un juif, Et vous lui dites, tu sais, la pauvreté, c'est vraiment ce que Dieu veut pour nous.
Croyez-moi,
interrogez un Israélite, si un jour vous en rencontrez
un. Quelqu'un
qui connaît un minimum sur la loi de Moïse.
Et qui
connaît ce que Dieu a fait pour eux.
Vous
allez voir comment il va vous regarder.
Nous
avons une meilleure alliance basée sur de meilleures promesses.
Et
Dieu a une onction pour nous bénir d'une façon spéciale dans les
domaines des finances. Mais
il y a des principes.
Et
le premier principe, c'est la parole.
Pour que
là-dedans, ça change.
Parce que
tu ne pourras jamais avancer dans les finances.
Si
dans ta mentalité,
tu
as une mentalité de pauvre.
Et
les gens qui ont des mentalités de pauvre.
Et la
pauvreté, comme nous allons voir, c'est le regard que nous avons sur l'argent.
Dans
chacun d'entre nous, il y a une capacité à produire.
Et cette
capacité à produire,
tu
peux la développer.
Mais
que l'argent ne soit pas l'issue, c'est ta recherche.
Vous
voyez bien ce que Dieu disait ici dans
son passage.
Fais attention à ton attitude.
Je veux
te bénir.
Il y a une école
de bénédiction
où tu
apprends à libérer cette bénédiction.
Je
te veux dans telle dimension.
Mais quand
tu commences à entrer dans ces dimensions-là,
garde-toi
de changer. Rappelle-toi par où tu es passé. Reste dans l'humilité. Attache-toi davantage à moi.
Ça,
c'est le message que Dieu
donne.
Le Seigneur vous bénisse.
On fera
la suite la semaine prochaine.